VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 17h à Lomé, bienvenue à notre journal. Actualité aux États-Unis, au moins 14 morts et 17 blessés. Tel est le bilan de la tuerie d'hier dans un centre social au service des personnes handicapées à San Bernardino, non loin de Los Angeles, en Californie. Deux personnes lourdement armées ont attaqué l'établissement pour des motifs encore inconnus. La police les a traqués après l'attaque et ces deux suspects ont péri dans une fusillade dans la ville voisine de Redlands. Un troisième suspect a été arrêté sur les lieux de la tuerie, mais on ignore encore si c'était un complice des assaillants. Le point avec Idrissa Sedoudia qui résume les informations fournies par le chef de la police de San Bernardino.
La police a abattu deux des suspects, un homme et une femme de 28 et 27 ans. Il s'agit de Saïd Farouk, un citoyen américain de 28 ans, employé de cette ville, et de Tashfin Malik, dont la nationalité n'est pas connue, a indiqué le chef de la police de la ville, Gerald Burgon. Une troisième personne qui était vue en train de s'enfuir a été arrêtée, mais on ne sait pas si elle est impliquée.
Selon le chef de la police, il ne s'agirait pas d'un acte de terrorisme ayant des liens avec l'étranger. L'Afrique maintenant, insécurité grandissante à Lomé, les vols et les agressions à l'arme blanche sont devenus monnaie courante dans la capitale togolaise. La peur s'est installée dans la ville et certains Loméens se sont imposés d'eux-mêmes un couvre-feu et disent ne plus sortir au-delà d'une certaine heure le soir. Des détails avec notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Face à la recrudescence des agressions, une peur s'est emparée de Lomé.
Quand vous sortez, au plus tard, 20h30, 21h, on doit rentrer à la maison, être barricadé. C'est plus intéressant comme avant, en fait. Nous ne sommes plus en sécurité dans ce pays.
Se sentant vulnérable, la population renoue avec les vindictes populaires. Des cas ont été signalés la semaine dernière dans la banlieue est de Lomé. Témoignage.
Un voleur est venu dans une maison et la bonne l'a vu. Aussitôt que la bonne l'a vu, il a commencé par frapper la bonne mortellement. On était en train de le lyncher depuis le petit matin, environ de 5h ou à 6h. Il était lynché, même brûlé.
Face à cette psychose généralisée, les Loméens interpellent les autorités togolaises.
Le gouvernement n'a qu'à jouer son rôle. Il ne joue pas son rôle parce que, franchement parlant, personne n'est en sécurité. Même sur la moto, même à la maison, partout, on ne sont plus en sécurité.
Comme souhaité par la population, le ministère de la Sécurité a renforcé les patrouilles dans des zones à haut risque. Ce qui fait que ces derniers jours, les cas d'agression ont sensiblement diminué. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Poursuite de la conférence de l'ONU sur le climat à Paris, le continent africain qui produit le moins de gaz à effet de serre subit le plus les effets du réchauffement de la planète. On écoute le ministre sénégalais de l'Environnement, Ali Haïdar, présent à la COP21.
Il faut un monde juste et équitable. Et nous vivrons ensemble dans ce monde juste et équitable, dans lequel les Africains trouveront leur place, le Moyen-Orient trouvera sa place, l'Asie, l'Amérique, l'Occident, tout le monde trouvera sa place, où nous vivrons un monde de terreur ensemble. Mais il n'est pas question qu'il y ait de l'eau douce d'un côté, de l'eau polluée de l'autre, de l'air frais d'un côté, de l'air pollué de l'autre. Ce monde n'est pas viable, il n'est pas durable. C'est dans la justice et l'équité. Et pour l'obtenir, bien sûr, il faut passer par l'éducation, mais l'éducation par les actes concrets. Il faut accompagner ceux qui savent faire au niveau halieutique, au niveau forestier. La solution, elle est là. Il nous faut juste l'appliquer.
Ali Haïdar, ministre sénégalais de l'Environnement. Et puis au Burkina Faso, le parti MPP de Roch Kabore, le président élu, n'a pas obtenu la majorité des sièges aux élections parlementaires du dimanche dernier. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Bagassi Koura.
Le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, devra gouverner avec un parlement plus que jamais émietté. Le parti du président élu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, n'a pas obtenu la majorité absolue de 64 sièges dans le futur parlement du Burkina Faso, bénéficiant des effets de l'insurrection d'octobre 2014. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, dont le candidat Zéphirin Diabré est arrivé second à la présidentielle, obtient 33 sièges de députés. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Blaise Compaoré, qui avait 70 députés dans l'ancien Parlement, n'obtient que 18 sièges. L'ancienne Assemblée nationale, dominée par les partisans de Compaoré, avait été incendiée le 30 octobre 2014 lorsqu'elle a voulu modifier la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un troisième mandat. Plus de 7000 candidats étaient en lice pour les 127 sièges de la future Assemblée nationale. Bagassi Koura, Ouagadougou pour VOA Africa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, insécurité croissante suite à la controverse sur le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La crise burundaise qui a fait des centaines de morts depuis avril dernier a retenu l'attention des participants à la clôture du tribunal international sur le Rwanda. Le président de l'association des victimes du génocide rwandais, Ibuka, a estimé que si la communauté internationale ne prête pas attention au développement de la crise burundaise, le Burundi pourrait s'attendre au pire. D'Arusha en Tanzanie, notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Le président de l'association des victimes du génocide rwandais a estimé, quand il s'adressait aux invités au sommet des cérémonies de clôture du tribunal pénal international pour Rwanda, que la communauté internationale n'a pas retenu les leçons apprises au début du génocide. Jean de Dieu Dusingi Zemungu a indiqué que des signes évidents dans le début du génocide sont perceptibles dans les violences quotidiennes qui se déroulent au-delà de la Kanyarou, séparant le Burundi du Rwanda.
What is happening in Burundi shows that much is still to be done.
Ce qui se passe au Burundi montre qu'il y a encore beaucoup à faire. Pour nous les rescapés, nous trouvons que les violations du droit international humanitaire au Burundi rappellent le génocide rwandais. C'est comme s'il n'y avait pas de leçons apprises pour prévenir et arrêter ces atrocités. C'est à se demander où se trouve la responsabilité de protéger. Il y en a qui ont opté pour le silence au moment où d'autres parlent comme si c'était pour se dérober de leurs responsabilités. Il ne faut pas que l'histoire se répète pour nous rappeler le temps où la communauté internationale a laissé le Rwanda en pâture à sa tragédie.
It's again the same as we saw when the international community left Rwanda to its tragedy.
Mais pour le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la prévention des génocides et en même temps conseiller spécial de Ban Ki-moon, le nombre de victimes du côté de la population contestataire et du côté des forces de l'ordre devient de plus en plus inquiétant. La solution pour les protagonistes burundais réside dans un dialogue franc et inclusif. Adama Dieng.
Pour moi, la question aujourd'hui, c'est comment arrêter les pertes de vies humaines. Et on a vu qu'il y a des morts dans les deux camps, aussi bien dans le camp des forces de sécurité gouvernementale que dans le camp des contestataires. Donc, il faut que ces gens-là baissent les armes. Et la solution peut être trouvée à travers le dialogue.
Pour le secrétaire général des Nations Unies, la communauté internationale a plusieurs options pour trouver une issue à la crise qui secoue le Burundi depuis bientôt 8 mois. Pour le moment, toutes les parties doivent s'asseoir ensemble autour d'une même table pour trouver une solution à la recrudescence de la violence au Burundi. Christophe Nkurunziza, Arusha, VOA Afrique.
RC à la campagne pour le référendum continue. Les Centrafricains iront aux urnes le 13 décembre pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Tout est fin prêt. C'est du moins ce qu'assure le ministre centrafricain de l'administration territoriale, Modibo Bashir Walidou.
Nous avons désormais les moyens de battre campagne. Nous avons lancé cette campagne et nous sommes en train pratiquement de réussir tout ce que nous avions prévu. Nous avons lancé la commande des projets de construction à multiplier par 15 000. Nous avons lancé la commande des banderoles, des t-shirts. Nous avons mis en œuvre tout ce qu'il fallait mettre en œuvre.
Mais de nombreux Centrafricains disent tout ignorer du contenu de ce projet de constitution. C'est le cas de Jean-Hugues Bagali, étudiant à l'université de Bangui.
Moi, particulièrement, je connais pas le contenu de cette constitution parce que, en principe, on devait lancer cette campagne-là 1 mois. Il faudrait que la population ait l'idée sur ce qui est dans cette nouvelle constitution. Parce qu'on peut pas aller quand même voter comme ça. Chez nous, on attend toujours au dernier moment pour improviser les choses. Il faudrait que les populations, parce que ça va de leur vie, il faudrait qu'ils soient informés. Qu'est-ce qui est inscrit dans cette constitution? Comme ça, ils vont peut-être voter favorablement ou défavorablement.
Jean-Hugues Bagali, étudiant à l'université de Bangui. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU réaffirme son intention de prendre des mesures contre les saboteurs du processus de paix au Soudan du Sud et ceux qui s'en prennent aux civils et attaquent les casques bleus. Samantha Power, la représentante permanente américaine qui préside le Conseil de sécurité ce mois-ci, a déploré en particulier les retards pris dans la formation du gouvernement sud-soudanais de transition prévu par le plan de paix du 26 août. Et pour terminer la lutte contre le terrorisme, la Grande-Bretagne a conduit ce matin ses premières frappes aériennes en Syrie contre les positions du groupe islamiste, quelques heures seulement après le feu vert du Parlement de Londres à ce changement de politique à l'égard de la Syrie. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.